de Marc, Ivry, moyen prénom. Au besoin, je les invente. Lydie, oui, notre pote, petite sœur Lydie, qu'on voit de temps en temps, et qui n'est pas là ce matin. Ah, bref, je vous propose qu'on se concentre maintenant, un petit moment, un petit instant, sur tous ces visages, et qu'ensemble nous les confions au Seigneur. Amen. À toi la gloire, Jésus. Ce n'est pas en vain, Seigneur, que tu nous as rassemblés. Ce n'est pas en vain que tu veux bénir ton corps, ton Église tout entière. Et ce matin, nous voulons t'apporter tous ces bien-aimés que nous venons de nommer, et s'il y en a d'autres encore, Seigneur Jésus, nous te les confions et te demandons pour chacun d'eux la guérison, la délivrance. Car tu es le Dieu des délivrances. Et nous te louons, Seigneur, de ce que sur la croix tu t'es chargé de nos maladies et de nos infirmités et même de nos douleurs. Au nom du Christ Jésus. Que la grâce de la délivrance, de la guérison, de l'apaisement soit donnée à chacun de ses bien-aimés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Amen.
Amen. Alléluia. Vous voyez, la cravate ne fait pas le prédicateur. Je vous propose de lecture d'abord dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, les versets 1 à 14. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, pas dingo, hein, simplement imprévoyantes, tête en l'air. 5 d'entre elles étaient sages, avisées. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent, avec leur lampe, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent !» Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous !» Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. » Un deuxième texte se trouve dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, qui est probablement le plus ancien écrit du Nouveau Testament. Disons, le plus ancien, le plus proche des événements de la mort et la résurrection de Jésus. C'est Paul qui écrit aux Thessaloniciens, et nous lisons au chapitre 4, à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés vivants jusqu'à ce jour-là, sous-entendu, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Je voudrais juste faire une petite considération sur la parabole des 10 jeunes filles. Donc, c'est très couleur locale, c'est très moyen-oriental, cette histoire de mariage, d'un comité d'accueil qui vient accueillir l'époux avec les amis de l'époux, ils arrivent ensemble. Et ça se pratique encore dans les pays musulmans, hein, ce genre de noces où... Un cortège va chez la future mariée. L'époux est aussi un des noms du Seigneur dans l'Ancien Testament. Dieu est l'époux d'Israël. Je voudrais aussi préciser que cette parabole des dix vierges, c'est une parabole et pas une allégorie. C'est pas du tout la même chose. Dans une allégorie, tous les détails signifient quelque chose. Dans une parabole, c'est ce qu'on appelle la pointe de la parabole qui compte. Donc, il n'est pas question ce matin de dire les lampes, c'est quoi, l'huile, c'est quoi, ce genre de choses, parce qu'on en a entendu, si j'ose dire, de toutes les couleurs à ce sujet. Bien. Seigneur, bénis ta parole, que ton esprit guide cette méditation. Que nous puissions vraiment recevoir de toi ce que tu veux nous dire, au nom de Jésus. Amen. Le Dieu qui est révélé dans les Écritures, comme dans la personne de Jésus-Christ, est toujours celui qui vient à la rencontre de ses créatures. Dieu est toujours en quête de l'humain. C'est bon de le savoir, parce que souvent, la religion consiste à chercher Dieu. Beaucoup de gens sont à la recherche de Dieu. Non, c'est l'inverse qui est vrai. Dieu cherche l'homme. Et un des chants qui m'ont touché profondément quand je me suis converti, c'était « Dieu te cherche pour te sauver, pour te guérir ». J'ai encore dans ma mémoire musicale ce chant chanté par les tziganes. Ah, c'était touchant, vraiment, profondément. Dieu te cherche. Est-ce que tu te laisseras trouver? Dieu, depuis le jardin d'Éden jusqu'à la fin de l'histoire, est toujours celui qui est, qui était et qui vient. Il vient à la rencontre de chacun de nous. Il n'est pas le Dieu des philosophes, habitant les hautes sphères célestes à distance des mortels et indifférent à leur sort. Il n'habite pas les Champs-Élysées, comme Jupiter, par exemple. Un bon jeu. Bref. Non, Dieu est amour. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu est amour? Eh bien, ça signifie qu'il vient toujours à notre rencontre. Il est aimanté par nous. C'est curieux que le mot aimant soit si proche du mot amant, n'est-ce pas? Dieu, en Jésus-Christ, s'est aimanté à nous. Il colle à notre humanité. Il ne se tient pas à distance. Un jour, il y avait 10 lépreux qui ont crié vers Jésus, mais en se tenant à distance, parce que c'était la loi. Les lépreux ne devaient pas avoir de contact avec les autres contagieux. Eh bien, Jésus s'est approché d'eux, il les a même touchés. Dieu vient à notre rencontre. Il désire la rencontre de chacun et de chacune d'entre nous. Il désire cette rencontre. Pourquoi? Parce que nous sommes intéressants? Parce que nous sommes gentils? Parce que nous sommes aimables? Non. Parce qu'il est amour. Après sa rencontre avec Abraham, après ses manifestations sous différentes formes, à Moïse, à Élie, à Ésaïe, vous voyez tous ces récits de l'Ancien Testament, après les images et les ombres de l'Ancienne Alliance et du culte d'Israël, c'est en Jésus-Christ que la rencontre se réalise pleinement. Bien sûr, les contemporains de Jésus, ainsi que ses disciples et même ses ennemis, se sont souvent demandé « Mais qui est-il celui-ci ? À qui obéissent le vent et la mer, qui marche sur les eaux, qui multiplie les pains, et qui c'est celui-là ? » Ils s'interrogent. Et quand ils approchent de la vérité, ils sont effrayés, comme Pierre, dans sa barque, après la pêche miraculeuse. Il craque, il tombe à genoux dans le bateau, et il dit à Jésus, « Seigneur, retire-toi de moi !» D'ailleurs, c'est intéressant dans ce récit, parce que Luc, c'est Luc, je crois, qui nous raconte ça, trois termes servent à désigner Jésus. Le premier de ces termes, c'est didascal. L'enseigneur, pas le Seigneur, l'enseigneur, l'instite. Il enseigne les foules. Puis Pierre, il est à distance un peu, il travaille ses filets, il fait son job. Et puis Jésus, tout à coup, s'adresse à lui pour lui demander de lui prêter son bateau. Et là, Pierre utilise un autre mot. Il dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Maître, épistates, ça veut dire patron. Tiens, le terme qui désigne Jésus a changé de enseigneur, il devient le patron, le maître. Et puis Jésus dit, avancez en eau profonde et jetez vos filets. Oh, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais puisque tu le dis, je vais jeter le filet. Et aussitôt, pouf, plein de poissons. Les filets craquent, les barques s'enfoncent, il faut en appeler une deuxième. Tiens, s'il fallait appeler une deuxième barque à Kevin, ce serait génial. Hein. Et puis Pierre craque à son tour et il dit, Seigneur, ah, ça c'est autre chose. On est passé de celui qui enseigne au patron et maintenant, il appelle Jésus courrier, Seigneur. C'est le nom de Dieu chez les Juifs. Seigneur, retire-toi de moi. Je suis un homme pécheur, pas de poisson cette fois-ci. Je suis un homme coupable. Il a peur. Donc Pierre approche de la vérité là, et un peu malgré lui, il confesse la divinité de Jésus. Qui est-il celui-là? Mais après la résurrection, son identité est pleinement manifestée à l'univers. Comme Paul l'écrit dans sa lettre aux Romains, chapitre 1er, verset 4, « Jésus est déclaré, selon l'Esprit Saint, Fils de Dieu, avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. » Ça y est, là, on est rencontré. Qui vient à notre rencontre? C'est Dieu, en Jésus-Christ. Oui, c'est la bonne nouvelle. Réjouissez-vous. C'est une bonne nouvelle. Nous avons tous été rencontrés par Dieu en Jésus-Christ. Il est désormais avec nous, pour nous, à jamais. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. J'ai été rencontré. Je me souviens d'une photo parue dans la presse, je crois que c'était en Charente-Maritime ou en Haute-Savoie, je ne sais plus très bien. Le journaliste, il n'a pas voulu rater ça. Il y avait un gars qui avait mis plein de versets bibliques sur sa voiture. Et sur la portière, du côté conducteur, il avait mis en grand « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Seulement, voilà, il avait eu un accident. Et la portière était défoncée. Le journaliste, il n'a pas raté ça. Une collision. Peut-être que pour certains, la rencontre du Seigneur est une collision. Boum! Comme Paul, par exemple, hein, sur le chemin de Damas. C'est une bonne nouvelle. Nous avons tous été rencontrés. Mais, voyez-vous, la rencontre de Dieu avec nous n'est pas un événement du passé. C'est un événement permanent. Il ne cesse jamais de venir à nous. Il est toujours celui qui vient, sans cesse. Nous n'avons pas toujours conscience de la venue du Seigneur à notre rencontre, car il vient souvent incognito. Dans le chapitre 25 de Matthieu, dont nous avons lu la première partie, il y a une deuxième parabole, celle des talents, qui au fait explicite celle des 10 jeunes filles. Et la dernière partie de ce même chapitre explicite tout à fait de quoi il en retourne. Quelle est la nature de cette attente, de cette veille? C'est quoi cette fameuse huile avec des réserves? Tout ça, c'est une seule et même chose. Ce sont nos comportements, nos œuvres. Enfin, les justes demandent, dans la parabole, dans l'annonce du jugement qui termine ce chapitre 25 de Matthieu, les justes demandent, Seigneur, quand avons-nous vu affamés? Et avons-nous donné à manger? Assoiffés, et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étrangers, et avons-nous recueilli? Ou nus, et avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? C'est vrai que cette énumération correspond bien peu au cliché d'une gloire messianique triomphante. La maladie, la prison, la faim, la soif, le dénuement, c'est le Christ, ça? Et ils sont tous étonnés. Pourtant, Jésus leur répondra, le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Dieu vient à notre rencontre dans nos prochains. Nécessiteux, boiteux, mal foutus, avec une bosse dans le dos. Je t'aimerais même avec une bosse dans le dos, dit une chanson. Eh bien, c'est ça. Il est donc celui qui vient à notre rencontre tout au long de notre histoire, mais souvent de manière inattendue, en des lieux et à des moments décalés. Il n'en demeure pas moins que notre attente espère son retour sur les nuées du ciel. Et c'est de ça que je voudrais maintenant vous parler. Je me souviens avoir lu l'histoire du Père Martin. Est-ce que quelqu'un l'a lu, le connaît ?
Oui.
Oui, magnifique histoire. Ce cordonnier qui attendait la visite de Jésus un jour de Noël. Alors il était dans sa boutique en train de travailler. Et puis il a été sans cesse dérangé par toutes sortes de gens qui lui demandaient un service, ceci, cela. Puis à la fin de la journée, pas de Seigneur. Il n'avait pas vu le Seigneur. Et pourtant, il lui est révélé qu'à travers tous ces gens qui sont venus le déranger, le supplier, lui demander service, c'est Jésus qui est à travers eux, est venu le visiter. Nous avons parfois des clichés dans la tête, hein. Nous voyons Jésus avec sa couronne de gloire, etc. Très haut, tout là-haut. Mais rappelons-nous qu'il est d'abord le Dieu très bas. Le Dieu très bas, qui s'est fondu dans notre humanité. Et les termes du Nouveau Testament sont forts. Il s'est anéanti. Dans ce mot, il y a le mot néant. Qui est mort sur la croix? Si ce n'est ce Dieu cliché, ce Dieu image, idéal, idéalisé, tout ça c'est mort sur la croix. Et vraiment, il faut nous en souvenir. Dieu est avec nous. Et le premier à qui Jésus dit « Tu seras avec moi dans le paradis, aujourd'hui. » C'est un saint? C'est un évêque? C'est le pape? Ni le soupape. C'est un brigand qui meurt sur une croix à côté de lui. Et je ne sais plus si c'est Bossuet ou quel grand prédicateur qui a commenté cette parole. Aujourd'hui, quelle promptitude! Tu seras, quelle certitude! Avec moi, quel compagnon! Dans le paradis, quel séjour! Je retiens que le point focal de la parabole des 10 jeunes filles, outre le fait que la véritable enseignement de cette parabole, c'est veiller, car vous ne savez pas le jour et l'heure. Le point capital est la soudaineté d'un cri. Voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est l'aboutissement de leur attente. Le partage entre celles qui étaient prêtes et celles qui ne l'étaient pas révèle simplement le sérieux de cette attente. Pour 5 d'entre elles, leur existence était entièrement tendue vers la venue du époux. Elles étaient aimantées. Les 5 autres, elles étaient partagées. Partagées entre les choses visibles, présentes, et les choses invisibles, à venir. Paul, c'est une parole même du Seigneur. Cette rencontre définitive se fera soudainement et surprendra le monde. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Cela résonne donc comme un ordre de marche pour la vie entière du disciple. En réalité, nous ne faisons rien d'autre que vivre sur cet horizon, rien d'autre que répondre à cet appel. Nous allons tous à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors, quoi que nous vivions, quoi que nous fassions, nous ne faisons rien d'autre. Je vais prendre trois petits exemples, très rapides, parce que notre activité de disciple, c'est avant tout la prière, le témoignage et le service. La prière que Jésus nous a enseignée est entièrement tournée vers cette espérance de la venue du royaume. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puissions-nous manger ce jour le pain de demain. Dans Matthieu, c'est ça. Ce n'est pas le pain quotidien, comme on l'a traduit, le pain du boulanger. Mais donne-nous ce jour le pain du jour qui vient, c'est-à-dire du royaume qui vient. Puissions-nous dès maintenant goûter la nourriture des forts, le pain de Dieu. Jésus a dit qu'il le mangerait avec nous dans le royaume de son Père. Donc c'est bien l'aspiration vers la venue du royaume que contient le Notre Père. La sainteté par le pardon reçu et donné. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Tout cela dans la perspective du royaume qui vient. Au nom de cette venue, pardonnons, comme nous avons été pardonnés. Et puis la demande de ne pas entrer dans l'épreuve. Ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve. Je discutais l'autre jour, je ne sais plus avec qui d'entre vous, sur l'ancienne version du Notre Père, et qui a été modifié à juste titre par la liturgie catholique, puisque là les gens disaient ne nous soumet pas à la tentation, mais Dieu ne nous soumet pas à la tentation, mais c'est ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Et là, à mon avis, il ne s'agit pas de la tentation qu'on peut éprouver devant une pâtisserie, mais l'épreuve des derniers temps qui vient pour éprouver les habitants de la terre. Ne nous laisse pas entrer dans ce temps difficile, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour tous les siècles. Voyez, cette prière du Seigneur, elle contient toutes nos prières. Quand je prie pour mon frère et ma sœur malades à l'hôpital, quand je prie pour la conversion de mes enfants, quand j'invoque le Seigneur pour n'importe quel sujet, en fait, tout est déjà pris dans le Notre Père. Tout contribue à la réalisation du Notre Père. Le moindre exaucement contribue à la venue du royaume. Parce que cette rencontre de Dieu avec l'humanité tout entière implique mon témoignage, ma prière, mon service. Je ne sais pas si nous en avons conscience. Parfois, nous nous dépatouillons dans nos petits problèmes. Nous supplions le Seigneur, nous lui demandons ceci, nous lui demandons cela. Mais n'oublions jamais que quoi que nous demandions, ça va dans le sens de l'avenir du royaume. Dieu l'oriente. C'est tout particulièrement vrai à l'Orient. Dieu l'oriente vers la venue de son royaume. Notre témoignage, nos paroles et nos actes annoncent à leur manière aussi l'espérance qui nous habite. Pourquoi est-ce que nous n'agissons pas comme les autres ? Paul rappelle aux chrétiens de ne pas se conformer au monde présent. Pourquoi ? Parce que nous sommes surplombés par la lumière de cette espérance, par cet horizon. Et du coup, nos gestes, nos paroles, notre comportement tout entier doit refléter cette attente, cette espérance. Et Dieu sait si de nos jours, le monde a besoin de voir des hommes et des femmes d'espérance. Alors qu'il y a tant de gens qui baissent les bras, sont découragés, désabusés, amers, révoltés. Un gilet jaune, ça exprime beaucoup de ce désespoir, ce désabusement, cette désillusion. Pourtant, moi je dis que c'est une époque privilégiée pour nous. On ne peut pas ne pas remarquer les chrétiens qui, par leur comportement, reflètent une espérance pour tous. Il vient, le Seigneur vient. Le Seigneur vient. Notre service. Attendre, veiller, peut laisser penser à une attitude de rêvassière, passive. Or, il n'en est rien. Il ne s'agit pas d'attendre les bras croisés, mais d'être actif. Dans la parabole que nous avons lue, il est question d'un sommeil qui saisit les 10 jeunes filles, les prévoyantes comme les non-prévoyantes, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Il n'est pas ici question d'un sommeil spirituel ou d'un relâchement, mais il est simplement question de leur mort. Le Seigneur tarde à l'heure où Matthieu écrit son évangile. La première génération chrétienne a disparu, que sont devenus les chrétiens qui sont décédés avant le retour de Jésus. Des questions se posent. Et Matthieu prend acte de ce fait historique. Le retard du Seigneur, que Jésus a ailleurs souvent annoncé d'une manière imagée, ce retard du Seigneur fait que les chrétiens meurent sans avoir vu se réaliser la promesse du retour. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Ce sommeil donc évoque simplement la mort inévitable, jusque pour nous. Toutes elles attendent la résurrection. Cette résurrection révélera la vérité profonde de leur vie. La bonne nouvelle, encore une fois, pour nous, c'est que la mort elle-même ne pourra pas nous retenir dans ses liens lorsque le Seigneur descendra du ciel. Il nous appellera. Tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. C'est ce qu'a dit Jésus. Lorsqu'il descendra du ciel sur les nuées du ciel. Et nous, les vivants qui serons restés en vie jusque-là, nous irons à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Il n'en va pas de même pour le sommeil dont Paul parle dans sa première lettre aux Thessaloniciens. Dans ce texte que nous avons lu, l'apôtre évoque deux sortes de sommeil. Au chapitre 4, il parle de ceux qui sont morts et qui ressusciteront premièrement. Au chapitre 5, il parle d'un autre sommeil, celui d'un monde vivant dans une illusion de paix et de prospérité, et que la venue du Seigneur surprendra pour sa ruine. Ne dormons donc pas, dit Paul. Ça semble contradictoire. Mais ce n'est pas la même chose. Ce « ne dormons pas » vise nos comportements, nos choix de vie. C'est la matière de la parabole suivante, celle des talents, finalement dévoilée dans la dernière partie de ce chapitre par l'annonce du jugement entre les brebis et les boucs, entre les justes et les injustes. Ne pas dormir, c'est agir avec justice. Au fond, la question qui nous est posée, c'est: suis-je partagé, tiraillé entre le présent et l'avenir, entre le visible et l'invisible, ou suis-je entièrement tourné vers la venue du roi? Puis au chapitre 5, Paul revient sur la question de la mort au verset 9 et 10. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, c'est-à-dire que nous soyons restés en vie, soit que nous dormions, c'est-à-dire que nous soyons décédés, nous vivions ensemble avec lui. C'est extraordinaire. Même mort, je vis avec lui. Nous sommes au Seigneur. Ça me fait penser ce merveilleux texte de l'Épître aux Romains. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses d'en haut, ni celles d'en bas, aucune créature, aucun événement, aucune puissance, aucune entité spirituelle, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous avons été rencontrés une bonne fois pour tous. Et nous allons encore vers cette rencontre amplifiée, j'allais dire, puissance je ne sais combien. Nous ne vivons plus dans le sommeil du monde. Dieu nous a délivrés du royaume des ténèbres, la nuit où on dort. Dieu nous en a délivrés et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. L'opposition lumière-ténèbre était très connue des milieux esséniens et des milieux gnostiques du début de l'ère chrétienne. Les esséniens s'auto-identifiaient en étant les fils de la lumière, et puis tous les autres non-membres de la secte, c'était forcément des fils des ténèbres. Et il y avait une guerre entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres. Ça, c'était la conception sectaire des esséniens. C'est encore la conception de tous les milieux sectaires. On se définit par opposition aux autres, et c'est la guerre. Et ce n'est pas le message de Jésus. Si nous sommes des enfants de la lumière, c'est parce que nous avons été libérés du royaume des ténèbres. Rendez grâce au Père qui nous a libérés du royaume des ténèbres et transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est pourquoi Paul dit: maintenant vous êtes des enfants de la lumière. Mais nous ne sommes pas en guerre contre les fils des ténèbres. Nous les aimons. Dieu nous envoie à leur rencontre pour que nous leur manifestions l'amour dont nous avons été aimés. Notre vraie vie est cachée avec le Christ en Dieu. Et quand bien même l'heure de notre décès sonnerait, elle ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus. Nous vivons ensemble avec lui parce que nous l'avons rencontré. Et que ce matin encore, nous le rencontrons dans sa parole. Nous le rencontrons dans nos frères et nos sœurs. Apprenons à voir, nous voir les uns les autres, comme le visage de Jésus, diffracté dans tous nos visages. Nous l'avons rencontré et nous le rencontrons encore. Amen. Seigneur, nous voulons faire monter vers toi notre louange, notre reconnaissance. Merci parce que nous ne sommes pas abandonnés. Nous ne sommes pas les jouets du hasard. Merci parce que tu n'es pas celui qui nous séduit, qui nous égare, mais qui nous appelle à nous laisser rencontrer par toi sans cesse. Louange à toi, Seigneur, pour le privilège de te connaître. Et si nous nous réjouissons ensemble, avec toi, autour de la table qui est le moment de la rencontre, nous ne voulons pas oublier cependant ceux qui en sont privés, ceux qui s'en tiennent éloignés, ceux qui n'ont pas accès. en te priant, Seigneur, que les restes trouvent preneur. Amen.